Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez Sophie Durocher.
Quel impact ça a dans la population quand une personnalité connue parle de sa dépendance à l'alcool et à d'autres substances? C'est la question qu'on peut se poser depuis quelques jours, en fait depuis plusieurs mois, puisque Marie-Pierre Morin l'a dit à quelques reprises qu'elle avait des dépendances, mais c'est de plus en plus clair, et c'était très clair hier soir, à Tout le monde en parle. Donc quel impact ça a quand quelqu'un de connu dit « Moi, je suis alcoolique, j'ai un problème, je me soigne, je vais en thérapie ». On va parler de tout ça avec Anne et Elisabeth Lapointe, elle est directrice générale de la fameuse maison Jean Lapointe. Bonjour Madame Lapointe, comment allez-vous?
Bonjour, je vais bien, merci.
Écoutez, je veux pas qu'on s'attarde nécessairement sur le cas précis de Marie-Pierre Morin, puisque comme toute personne qui fréquente des rencontres anonymes, elle a le droit à un certain anonymat. Mais je veux qu'on réfléchisse ensemble, Madame Lapointe, à l'impact que ça a quand quelqu'un va sur la place publique en disant ces quelques mots « je suis alcoolique ». Quel impact ça a?
Écoutez, c'est sûr que et on parle de la maison Jean Lapointe, on parle donc de Jean Lapointe, et pourquoi j'en parle, c'est que il a été un des premiers à avouer finalement aux Québécois et aux Québécoises qu'il avait un problème d'alcool. On recule évidemment, il y a plus de 40 ans, et à cette époque-là, il y avait énormément de préjugés et de tabous autour des personnes qui pouvaient avoir des problèmes d'alcool. Alors, ce que ça fait, le premier impact, c'est justement d'enlever une certaine stigmatisation et des préjugés qu'on peut avoir envers ces gens-là, parce qu'on se fait toutes sortes d'idées de ce que c'est un alcoolique. Mm-hmm. Alors là, évidemment, on avance dans le temps, on est en 2021, quelqu'un aujourd'hui qui fait le même exercice, ça a le même impact, parce que veut pas en 2021, il y a encore beaucoup de préjugés entourant les gens qui ont des problèmes de consommation de substances, que ce soit l'alcool ou n'importe quel autre. Alors, c'est toujours quelque chose qui est favorable, parce que oui, on parle de l'anonymat quand on adhère au groupe d'entraide comme les Alcooliques Anonymes.
Voilà.
Mais peu importe qu'on adhère à ce mouvement-là ou pas, la personne, elle a le droit de s'afficher comme ayant des problèmes. Là, on parle d'alcool, ça peut être bien d'autres problématiques. Alors, c'est sûr que ça fait en sorte que, dépendamment comment est-ce que la sortie, elle est faite, le contexte, comment est-ce qu'on perçoit la personnalité publique, c'est sûr que ça peut encourager d'autres personnes aussi à aller soit faire le même « coming out », entre guillemets, ou à tout le moins peut-être d'aller chercher de l'aide. Et c'est ce qu'on a vu, je vous dirais, il y a quelques années, quand Étienne Boulay s'est affiché comme étant quelqu'un qui avait eu des problèmes de consommation. L'impact que je sais que ça a eu, c'est que nous, il y a des gens qui ont demandé de l'aide à la maison Jean Lapointe et qui ont dit « c'est parce qu'Étienne Boulay en a parlé, je me suis reconnue, ça m'a inspirée ». Alors, c'est pour ça que de façon générale, oui, on voit ça d'un point de vue quand même assez favorable, positif pour la personne qui le fait et aussi pour l'impact que ça peut avoir dans la société.
Ça, c'est très intéressant. Bon, vous faites deux parallèles. Faites un parallèle avec Jean Lapointe lui-même il y a une quarantaine d'années. Faites un parallèle avec Étienne Boulay. Donc, si on se base sur ces deux expériences-là précédentes, il est tout à fait possible qu'il y ait un effet Marie-Pierre Morin et que les gens appellent chez vous ou qu'ils appellent ailleurs. C'est possible que ça déclenche donc un sentiment d'identification. Quand on entend Marie-Pierre Morin dire « j'ai un dédoublement de personnalité », il y a deux Marie-Pierre, celle qui travaille, qui est sobre, et celle qui boit trop et qui a un comportement néfaste, il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. En même temps, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que, parce que je regarde, mettons, sur les médias sociaux, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais le fait qu'elle soit alcoolique ou le fait qu'elle ait une dépendance, ça n'excuse pas ses comportements. » Est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, que des gens se disent « Bon, ben moi, c'est pas grave que j'ai tel comportement parce que je suis malade, puis ma dépendance, c'est pas moi vraiment qui ai commis ces gestes-là, c'est le moi dépendant qui a commis les gestes. »
Écoutez, moi, je n'ai, justement, sachant que j'avais l'entrevue avec vous ce matin, je ne suis donc pas allée regarder les articles sur Marie-Pierre Morin, ni l'entrevue qu'elle a donnée hier à Tout le monde en parle, parce que, justement, je ne voulais pas embarquer dans,
son cas particulier.
Le procès.
Oui.
Pardon?
De pas s'attarder sur son cas particulier à elle.
Exactement. Mais c'est pour ça que je vous disais, ça dépend comment est-ce que la sortie, elle est faite. Ce qu'on sait, c'est que l'alcool, c'est un dépresseur, ça agit sur notre cerveau. Et c'est sûr qu'un des effets, c'est que ça nous désinhibe. Alors, effectivement, on peut se comporter d'une certaine façon quand on a bu de l'alcool, dépendamment de la personne. Mais, comme vous le dites, ça ne peut pas tout excuser, hein, parce que ça désinhibe. Ça veut dire que si on est très timide, ça va nous dégêner. Alors, il y a cet aspect-là peut-être, mais je veux dire, on est quand même la même personne. Donc, effectivement, il ne faut pas se cacher derrière le fait de dire « je suis malade, l'alcoolisme, c'est une maladie ». Et même si nous, à la maison Jean Lapointe, on reconnaît l'alcoolisme et les autres dépendances comme étant des maladies, ça ne peut pas... Ce qu'on envoie comme message, nous, aux gens qui viennent chez nous, c'est « OK, t'es peut-être pas responsable du fait que t'es alcoolique, mais t'es très certainement responsable de ton rétablissement et de ce que tu fais dorénavant avec toute l'information maintenant que tu sais. » Donc, de dire, admettons, ben, dans le fond, c'est pas moi, c'est juste quand je bois, je deviens cette personne-là. Je pense qu'il y a une partie du travail qui est pas fait. Alors, faut aller voir pourquoi. Est-ce que quand je suis ou l'effet d'une substance, pourquoi je me comporte comme ça? Parce qu'il y a d'autres personnes, ils se comportent pas du tout comme ça quand ils consomment. On va prendre justement le cas de mon père. Mon père, quand il buvait, ben premièrement, c'était très social, parce qu'il jouait dans les cabarets, dans les clubs, mais mon père avait le vin triste. Donc, lui, c'était plus qu'il s'apitoyait, pas qu'il s'apitoyait, mais il y avait de la tristesse par rapport à plein de choses dans sa vie. Donc, on peut pas donner tout le blâme à la substance. Et c'est important de ne pas le faire, justement, parce que, comme vous dites, les gens, après ça, vont partir pour dire « Ah, ben, c'est pas de ma faute, j'ai un problème d'alcool. » Non, on peut pas. Il faut quand même se responsabiliser et corriger ce qu'on a peut-être pu faire sous l'état de substance, sous l'état, en fait, en état d'ébriété.
Très intéressant, très intéressant. Puis j'apprécie beaucoup aussi votre candeur à parler de ce qui est arrivé à votre père. C'est toujours important de nommer les choses et de parler en toute transparence. Madame Lapointe, il y a un autre point qui est important. Quand une personne va sur la place publique comme ça et parle ouvertement de ses problèmes de dépendance et parle de sa démarche, on peut être surpris parfois. Quand quelqu'un nous dit « Ben moi, j'ai fait une retraite fermée pendant 21 jours où je fais partie de groupes anonymes, etc., de groupes d'entraide. » Et dans quelle mesure ce 21 jours-là de cure fermée, ça peut soigner? C'est-à-dire que Marie-Pierre Morin nous dit, par exemple, « Bon, ça fait 9 mois que j'ai pas consommé. Est-ce que ça suffit? En 3 semaines, on peut, entre guillemets, être guéri de l'alcoolisme? »
J'apprécie votre question. Oui, un traitement, il y a toutes sortes de traitements. On peut faire en 3 semaines, on peut faire en 3 mois, un 6 mois, il y a toutes sortes de façons d'arrêter de consommer. Nous, c'est également notre modèle chez nous, on fait un traitement de 21 jours. 21 jours, c'est suffisant pour couper l'habitude. Donc, il y a toujours une période de sevrage, et par la suite, de vraiment pouvoir goûter à l'abstinence et de pouvoir, justement, diminuer les obsessions, l'envie de consommer. Donc, c'est sûr que oui, un 3 semaines, c'est suffisant pour cette première partie de démarche. Mais, effectivement, pour casser vraiment une habitude et prendre de nouvelles habitudes, c'est sûr que oui, déjà, il faut un minimum, on va dire, un 3 mois. Et donc, pour essayer justement d'entreprendre une vraie démarche où on change des habitudes, on est allé regarder qu'est-ce qui fait qu'on consomme, et basé sur la problématique qui est en dessous, essayer d'avoir des nouvelles habitudes. Donc, c'est vraiment un long processus. Mais vraiment pour couper cette habitude-là, oui, 21 à 28 jours peut suffire, mais c'est pas pour tout le monde, évidemment. Mm-hmm. Mais dans certains cas, oui, c'est suffisant. Et c'est le modèle à la maison Jean Lapointe. On les suit après pendant 3 mois parce qu'on sait que les 3 premiers mois suivant l'arrêt sont très, très, très fragiles. Alors, une fois qu'on a dépassé 3 mois, on se sent plus solide encore. Mais oui, c'est un des modèles et une des façons. Mais vous avez parlé de guérison. Non, on n'est pas guéri. À partir du moment où on a développé une dépendance, que ce soit à l'alcool ou à une autre substance, ça va nous suivre toute notre vie. Ce qui veut dire que tous les jours, je dois être vigilant. Tous les jours, je pourrais recommencer à boire et repartir. Alors, on n'est pas guéri. On a entrepris, c'était la première partie de notre démarche de rétablissement. Mais par la suite, évidemment, comme l'adhésion au groupe d'entraide, c'est une façon ou aller en psychothérapie, c'est sûr que ça va nous permettre de continuer notre cheminement pour être encore plus solide. Mais je vous dirais que c'est un travail de tous les jours. De tous les jours. Et c'est pour ça, dans les groupes d'entraide, on parle...
Un jour à la fois,
parce que chaque jour, je me fais la promesse, ou du moins le souhait de ne pas consommer.
Ouais, c'est très très intéressant, puis j'apprécie vraiment beaucoup que vous preniez le temps aujourd'hui, Madame Lapointe. Beaucoup de questions encore. Oui. Je sais que à la maison Jean Lapointe, vous avez innové en 2020 à cause de la pandémie avec donc ce 21 jours de traitement par Zoom. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est aussi efficace quand on fait ce 21 jours quand on le fait par Zoom versus le faire en personne, en chair et en os. C'est quoi la parce que là ça fait plusieurs mois maintenant, vous êtes capable de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Est-ce que c'est efficace à 100% comme les traitements en personne?
Encore une fois, j'apprécie vraiment vos questions. Écoutez, on le savait que ça fonctionnerait, mais on a été drôlement surpris de du programme virtuel, qui d'ailleurs est encore offert, parce qu'il y a des gens, pour toutes sortes de raisons, là, ne viendront pas en traitement interne. Alors écoutez, je vous dirais que je pense que ce qu'on a pu faire, ce qui est très innovateur, je vous dirais, c'est que c'est pas seulement la psychothérapie, là. C'est pas les rencontres individuelles avec l'intervenant, là, seulement qui fonctionnent. C'est que nous, il y a une prise en charge immédiate où la personne va vivre son sevrage du confort de sa maison, mais accompagnée par notre équipe médicale. Et ça, c'est innovateur. Ça veut dire qu'elle va faire son bilan médical complet avec notre infirmière, avec notre médecin. On va envoyer la médication de sevrage à la maison. On va s'assurer de la prise de la médication à tous les jours. On surveille le sevrage. Donc, on envoie l'appareil pour prendre la pression. Donc, on fait tout pour que la personne puisse vivre un sevrage en sécurité. Et à travers tout ça, les rencontres avec l'intervenant. Alors, je vous dirais que jusqu'à présent, ça a été excessivement positif. Et ceci dit, c'est comme on a maintenant, la maison est ouverte, là. Il faut comprendre qu'on a fermé temporairement parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour accueillir de façon sécuritaire les gens. Si la personne, on voit que le sevrage ne se passe pas bien, on prend aucune chance, qu'on dit à la personne, va à l'hôpital ou viens chez nous, vive ton sevrage, et on continuera par la suite en virtuel. Alors, je vous dirais que c'est très concluant. Il y a pour qui des gens de venir, de sortir de la maison, d'aller dormir ailleurs, d'être entouré de gens. Il y en a pour qui ça ne fait pas, là, sont pas à l'aise. Et le traitement virtuel devient une solution pour ces gens-là. Ou des gens qui, comme là, on en a une en ce moment en traitement, elle a de jeunes enfants à la maison. C'est pas possible pour elle de délaisser ses enfants. Donc, on adapte le traitement pour cette personne-là. Donc, c'est sûr qu'on aide des gens qui ne viendraient pas, comme des gens dans des régions éloignées qui veulent absolument faire le traitement avec la maison Jean Lapointe. Alors oui, c'est vraiment très efficace. On est en train d'évaluer justement l'efficacité du programme d'une façon beaucoup plus officielle avec des chercheurs, mais je vous dirais que déjà, ce qu'on observe, c'est que ça marche très bien.
Ça, c'est très important ce que vous venez de dire, Madame Lapointe, parce que je suis sûre que il y a beaucoup de gens qui ont entendu donc Marie-Pierre Morin confirmer que elle son 21 jours ça avait été fait par Zoom, puis il me semble que j'entendais le Québec des millions de gens, oui. Des milliers de gens qui disaient ben voyons donc cette affaire là voir si on peut oui. faire un traitement par Zoom. Mais vous nous le confirmez aujourd'hui, l'efficacité de ce traitement-là. Donc, ça veut dire que une des choses qu'on aura apprises pendant la pandémie, c'est qu'on pouvait faire du télétravail, de la télémédecine, de la télééducation, de la télé, toutes sortes de patentes, des oui. téléspectacles, mais aussi le télétraitement et que ça marche. Donc, ça veut dire que pour les prochaines années, il peut y arriver toutes sortes de situations. Et on sait qu'on peut soigner des gens à distance. C'est énorme comme innovation, Madame Lapointe.
Vraiment, vraiment. Et nous, ça faisait des années qu'on se disait il va falloir commencer à offrir le virtuel. Puis finalement, il y avait toujours d'autres priorités. La pandémie nous a poussés à aller de l'avant et finalement le démarrer ce programme-là. Et vraiment, c'est là pour rester, assurément, comme le télétravail, comme bon, toutes sortes disons, de soins d'emploi qui vont pouvoir se poursuivre en télétravail. Mmh. La même chose, ceux qui consultent en psychothérapie, qui le font de façon virtuelle. Effectivement, c'est très concluant. Et il y en a qui vont même préférer cette façon-là.
Une dernière question, Madame Lapointe.
Oui.
En s'éloignant, mais pas trop, du cas de Marie-Pierre Morin, quand quelqu'un fait son « coming out », entre guillemets, d'alcoolique ou de dépendant, quelle est la meilleure attitude à avoir envers cette personne-là? Est-ce que c'est le jugement? Est-ce que c'est une sentence de non-travail à vie? Est-ce que c'est l'acceptation, le dialogue, l'écoute? C'est quoi la bonne attitude à avoir avec quelqu'un qui dit « je suis dépendant, je suis alcoolique »?
Évidemment, on peut pas changer les gens. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir critiquer et condamner. Mais quand on est dans l'entourage de cette personne-là, c'est le non-jugement, c'est l'accueil, même si on ne comprend pas le fait que cette personne-là ait été assez courageuse pour le dire. Je crois qu'il faut juste dire, écoute, je suis pas certaine de tout comprendre, mais je suis là avec toi, et puis je peux t'écouter, et je te jugerai pas. Alors moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est l'accueil total, parce que je pense que quelqu'un qui vit avec une dépendance et qui, après tant de temps, finit par dire « Écoutez, moi, j'ai un problème. » Cette personne-là sort du déni, premièrement, ce qui est énorme, et elle le sait qu'à partir du moment où elle le nomme, elle ne peut plus se cacher. Et ça, c'est un énorme pas pour cette personne-là. Et donc, le mieux qu'on peut faire, c'est de l'accueillir.
Très intéressant. Madame Lapointe, je vous remercie vraiment, c'est très apprécié, très éclairant. Je sais pas si ça se dit, là, peut-être que je viens d'inventer un mot, une formule, mais vraiment, merci de nous avoir éclairé de vos lumières et de nous avoir parlé de ça. Alors, on va attendre quelques jours pour voir s'il y a vraiment cet effet, Marie-Pierre Morin, entre guillemets, s'il y a des gens qui vous appellent, vous ou d'autres organismes, pour dire, ben écoutez, moi je me suis reconnue dans son témoignage, donc j'ai décidé de faire quelque chose, de me reprendre en main. Anne-Élisabeth Lapointe, vous êtes directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Merci beaucoup de votre témoignage et de votre entrevue aujourd'hui.
Et vraiment, merci à vous de parler de ce sujet-là qui est si important. Merci beaucoup.